le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Quatrième numéro du temps d'une chanson. Nous poursuivons notre voyage dans le temps. Heureusement que la chanson française nous réconforte afin de supporter les soubresauts de l'histoire.
Rouge Père épaisse.
Janvier 1956. 2 janvier, victoire du Front républicain, SFIO, radicaux, aux élections législatives. Effondrement des républicains sociaux, ex-RPF. Percée et montée du poujadisme avec l'entrée de ce mouvement au Parlement. Jean-Marie Le Pen, élu sous étiquette poujadiste, entre à l'Assemblée nationale comme le plus jeune député après le communiste André Chaîne.
Il y a 70 ans naissait un mouvement politique assez unique, d'importance modeste. Il n'a duré que quelques années et n'a jamais exercé le pouvoir. Et pourtant, il a tellement marqué les esprits qu'il est resté dans le vocabulaire politique et il imprègne encore l'imaginaire français. Le 21 juillet 1953, donc, à Saint-Céré, dans le Lot, les petits commerçants organisent un barrage pour empêcher un contrôle fiscal. À leur tête, Pierre Poujade, un modeste papetier de 32 ans qui fonde quelques mois plus tard l'Union de défense des commerçants et artisans, l'UDCA, et qui donnera son nom au mouvement le Poujadisme. Le Poujadisme naît dans une période de profonde transformation de la société française. Le pays se modernise à grande vitesse, il s'industrialise, et on assiste à la mise en place de l'État social né de l'après-guerre, ce qui fait augmenter la pression fiscale. Face à ces bouleversements, il y a tout un monde en déclin, celui de la boutique, des commerçants, des artisans, des petits paysans très présents dans les petites villes du sud de la France, qui se considèrent comme laissés pour compte, qui ont peur d'être abandonnés et qui se révoltent parfois de manière violente. Le moteur du mouvement poujadiste est la lutte contre les contrôles fiscaux, qui exaspèrent les commerçants. Mais il ne se limite pas à ça. Poujade met en place toute une rhétorique de défense des petits contre les gros. Le système pour Poujade, c'est aussi bien l'État que les grands groupes industriels, aussi bien les hommes politiques que les technocrates et les intellectuels parisiens. Pour résumer, Poujade estime qu'il incarne la vraie France, celle de la province, du tiroir-caisse et du bon sens, qui refuse de mourir face à une modernisation sans âme qui voudrait transformer les Français en fonctionnaires ou en salariés. L'habileté de Pierre Poujade dans sa manière d'articuler et d'incarner ce discours explique pourquoi le poujadisme sera davantage qu'un simple mouvement corporatif.
Nous représentons une masse et qui maintenant, si vous êtes aussi disciplinés que je vous l'ai demandé, et qui fera trembler n'importe quel ministère.
Une éducation civique s'est faite dans la couche sociale que j'ai l'honneur de représenter. Et enfin, et c'est le grand espoir de la France, ces gens, ces commerçants et ces artisans, ayant la réputation d'être des affreux grippe-sous, des gars qui ne pensaient pas plus loin que leur tiroir-caisse, sont sortis de leur boutique pour défendre précisément ce tiroir-caisse, et une fois qu'ils ont été dans la rue, ils se sont aperçus que le tiroir-caisse, ce n'était qu'une partie du problème, et une toute petite partie du problème, que c'était l'entreprise tout entière qui était menacée, et que c'était même derrière l'entreprise, que c'était la famille tout entière qui était menacée, le patrimoine depuis A jusqu'à Z.
Il y a également une dimension qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de populiste, voire de complotiste dans le poujadisme. Pierre Poujade ne cesse de dénoncer le capitalisme international et les trusts apatrides, mais il concentre aussi ses attaques sur l'homme fort de la 4ème République des années 50, Pierre Mendès France. Et dans les offensives du commerçant de Saint-Céré, il y a une incontestable dimension antisémite.
Tu es en France depuis quelques générations, je te l'accorde. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Dupont, de Durand, de Poujade qui ont apporté leur sang, n'est-ce pas, avec le tien? Est-ce que tu t'es mélangé à la communauté française? Non. Eh bien, c'est toi le raciste. C'est toi le raciste, puisque tu n'as pas voulu te mélanger. Tu es venu te mettre dans la communauté française. Tu es venu profiter de la communauté française, de tout ce qu'elle t'a apporté, de cette générosité. Tu en as profité, tu t'es enrichi, tu t'es développé, et tu es resté là, dans ta secte.
Ce qui est marquant également dans le poujadisme, c'est son anti-intellectualisme. Poujade estime que la France est atteinte d'une surproduction de gens à diplôme. Polytechniciens, économistes, philosophes et autres rêveurs qui ont perdu tout contact avec le monde réel. Cette exaltation du bon sens commerçant face aux élucubrations des intellectuels va déclencher une forte réaction d'hostilité, voire de mépris, du côté des seconds. En 1956, la revue Esprit décrit le poujadisme comme un petit fascisme pour petits français. Mais c'est surtout Roland Barthes qui consacre au petit bourgeois Pierre Poujade un texte assez cruel de ses mythologies. Nous savons maintenant ce qu'est le réel petit bourgeois. Ce n'est même pas ce qui se voit, c'est ce qui se compte. Or, ce réel, le plus étroit qu'aucune société ait pu définir, a tout de même sa philosophie. C'est le bon sens. Le fameux bon sens des petites gens, dit Monsieur Poujade. Ainsi, le langage de Monsieur Poujade montre que toute la mythologie petite bourgeoise implique le refus de l'altérité, la négation du différent, le bonheur de l'identité et l'exaltation du semblable. En janvier 1956, c'est la consécration électorale pour l'UDCA de Pierre Poujade, qui réunit près de 12% des voix aux législatives et envoie 52 députés à l'Assemblée nationale. Des députés au profil très atypique. On y trouve des hôteliers, des artisans, des VRP et un certain Jean-Marie Le Pen. Mais le poujadisme va vite péricliter. Avec la naissance de la Ve République en 1958, il devient marginal et axe de plus en plus son discours sur la défense de l'Algérie française. L'UDCA est finalement dissoute en 1962. Ceci étant dit, le poujadisme s'est définitivement imposé comme un concept politique, souvent dans un sens péjoratif d'ailleurs. Et les ferments qui ont donné naissance au poujadisme en 1953 n'ont pas disparu, en témoignent les récentes élections aux Pays-Bas qui ont vu le triomphe du mouvement Agriculture Citoyen, un parti anti-écologiste en défense du monde rural, dont la rhétorique rappelle par beaucoup d'aspects celle de Pierre Poujade.
7 janvier. Mise en route de la pile atomique de Marcoule. Première centrale nucléaire française, elle fournit du courant le 28 septembre. Musique. 19 janvier, ouverture de la troisième législature de la 4e République. 24 janvier, fin du second gouvernement Edgar Faure. Le 26 janvier, le président René Coty désigne Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO, pour former le nouveau gouvernement, qu'il préfère à Mendès France malgré sa forte popularité. Le même mois, décret instituant le Code de la famille et de l'aide sociale. « Quand je monte chez toi », chanté par Jacqueline Guillemoteau, est une chanson que l'on pouvait entendre en cette année 1956.
Quand je monte chez toi, j'ai le cœur qui saute, qui saute, qui saute de joie. Et dans le petit escalier qui n'en finit pas de monter, j'aime venir chez toi, même si c'est haut chez toi. Aussi ne t'étonne pas si j'ai le cœur qui bat. Je monte chez toi. Tu n'as qu'un petit 7e de banlieue et tout près d'un lit de bois. Un petit carré de ciel toujours bleu qui s'allume sur les toits. Là-haut, je sais que tu m'attends et je prends tout mon temps. Quand je monte chez toi. j'ai le cœur qui saute, qui saute, qui saute de joie. Et dans le petit escalier qui n'en finit pas de monter, j'aime, 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 j'aime venir chez toi.
Même,
même, même si c'est en chez toi. Aussi ne t'étonne pas si j'ai le cœur qui bat quand je monte. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte,
je monte, je monte, je monte
chez toi.
Jacqueline Guillemoteau, née en janvier 1922, est issue d'une famille bourgeoise et conservatrice de Neuilly. Elle reçoit une éducation stricte avec cours de piano. Aînée de 5 enfants, elle doit montrer l'exemple. La guerre survient lorsqu'elle n'est qu'une jeune fille, mais déjà le spectacle l'intéresse. Elle écoute beaucoup de disques. Léo Marjane et Jean Sablon sont ses idoles. En 1945, elle se présente à une audition pour passer à la radio. Elle est retenue et pour son premier passage est accompagnée par une grande formation. Cela ne lui pose pas de problème et elle s'en sort plutôt bien. Dans l'orchestre, un guitariste, Louis Gastet, futur mari de Lynn Renault, remarque son phrasé remarquable. Il a sa propre maison d'édition et lui propose d'enregistrer 2 titres, Gentleman et Ça n'était pas original, dont les paroles sont de Françoise Giroud. Lors d'une tournée, elle fait la connaissance du chanteur Henri Decker, qui va devenir son mari et le père de son unique enfant, François. Il lui fredonne sans cesse une mélodie, Printemps, que Jacqueline trouve plutôt jolie. Henri Decker lui présente alors l'auteur, Paul Durand. Il a un grand orchestre, il réussit à la persuader d'abandonner le style réaliste pour des thèmes musicaux plus modernes, teintés de jazz et des paroles parlant d'amour. Les ventes du disque décollent très vite, et il remporte le Grand Prix du disque 1948. Paul Durand avait vu juste. Elle est crooneuse, chanteuse de charme. Elle est aussi une des premières interprètes de titres de Charles Aznavour, rencontré dans un cabaret. Dès 1950, elle a fait son premier voyage aux États-Unis. Mademoiselle de Paris, La Seine et Les Feuilles Mortes ont été remarquées là-bas. Elle part chanter ses 3 titres en direct sur ABC, accompagnée par Percy Faith. C'est le premier de ses nombreux voyages aux États-Unis. Plusieurs disques 33 tours 25 cm Vox Records sont pressés outre-Atlantique. Elle est également populaire au Brésil, où ses disques l'ont précédée, au Japon et en URSS. Très vite, la jeune femme a une carrière de dimension internationale. Aux États-Unis, le label Columbia édite plusieurs de ses albums, dont un en anglais, The Sweet Language of Love, en 1957. Janvier 2002. 1er janvier, l'euro devient officiel. Pas de problème technique majeur ni de dérapage apparent des prix, mais malgré une campagne officielle louangeuse, pas d'enthousiasme populaire. 17 janvier, loi sur la modernisation sociale. 22 janvier, loi autorisant l'accouchement sous X. Nouveau statut de la Corse. En France, Charles Pasqua accuse un cabinet noir de Matignon d'être l'initiateur de l'enquête qui a abouti à la mise en examen d'une de ses collaboratrices et de l'épouse du député européen Jean-Charles Marchiani dans le cadre de l'enquête sur des prélèvements de fonds. Sur des rançons versées en 1987 et 1988 pour la libération des otages français détenus au Liban. Charles Pasqua et Jean-Claude Marchiani démentent tout versement de rançon. Attaque par 2 militants du Hamas contre des militaires israéliens, 6 morts dont les 2 tireurs palestiniens. Décès de l'ancien ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, à l'âge de 79 ans.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
Curiosité et enthousiasme, l'euro a réussi son examen de passage. Razzia sur les distributeurs automatiques, un peu plus de réserve chez les commerçants, mais aucun bug n'a été signalé, ni en France, ni ailleurs en Europe. Parmi les néophytes de l'euro, nous avons suivi Lionel Jospin. Cela dit, le vrai test est pour demain avec la réouverture des magasins et des banques. Les prix vont-ils rester sages? Les hypermarchés sont-ils prêts? Trois questions à Michel-Édouard Leclerc, patron des centres du même nom. Bonsoir et à tout à l'heure. L'autre face de ce réveillon, beaucoup moins glorieuse, une centaine de voitures incendiées en région parisienne et 80 en Alsace. Plus grave, un attentat à la bombe artisanale a blessé 9 personnes lors du réveillon municipal dans le village de Bar, près de Strasbourg. Le nouvel an du souvenir à New York, 500 000 de personnes dans les rues malgré le froid, sous le signe du patriotisme. Enfin, en France, les premiers congés paternité pour les papas du 1er janvier. 2 semaines de repos, nous irons à Toulouse. Bonsoir à tous, merci de votre attention et avant toute chose, très bonne année 2002. Toute la rédaction de France 2 s'associe à moi pour vous souhaiter bonheur et santé. Nouvelle année marquée donc par l'arrivée de l'euro, ça y est, c'est fait et vous avez été très nombreux cette nuit aux premières heures de la matinée et pendant cette journée à souhaiter les toucher, les palper ces billets. Rarement les distributeurs automatiques ont suscité une telle fièvre. Le jour de l'euro, reportage David Boëry avec toutes nos équipes.
Ben c'est 50 euros, je sais pas combien ça fait en francs, mais ça fait plaisir d'avoir 10 euros. Parce que c'est de l'argent quand même.
J'ai demandé à la Lune est une chanson du groupe Indochine, extraite de leur album Paradise, sorti en 2002.
Et toi et moi, on était tellement...
Ce morceau phare a permis au groupe de renouer avec les médias, qui les avaient abandonnés 10 ans auparavant. Le single est sorti le 8 avril 2002. Il s'est classé à la première place en France et en Belgique. Écrite par Michael Furnon en 1994, chanteur de Mickey 3D, elle devient très vite un succès en France puis dans une grande partie de l'Europe, s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires rien qu'en France. L'album en fera autant quelques mois plus tard. La chanson a failli ne jamais exister car Indochine n'arrivait pas à trouver la version finale, notamment sur le rythme, qui rappelle une berceuse. Alors que la chanson était au départ pour Sony Music une phase B, c'est leur producteur de Sony, Hervé Lausanne, qui les a persuadés de continuer à chercher car il voyait un signe sur cette chanson. C'est lui-même qui a eu l'idée de demander à Michael Furnon d'écrire pour Indochine. Il en possède toujours la démo, avec en plus de « J'ai demandé à la Lune », deux autres chansons que l'histoire a oubliées. Lors de l'enregistrement de l'album, le chanteur Nicolas Sirkis avait proposé à Pauline, la fille de son ami Rudy Léoné, alors âgée de 8 ans, d'assurer les chœurs. La chanson a été reprise par Mickey 3D en 2004 sur le live à Saint-Étienne du groupe. Il existe également une version longue, acoustique, mais qui n'est plus disponible, parue sur un disque commercialisé en décembre 2002 au profit de l'association Médecins Sans Frontières. En janvier 2011, le texte a été en partie réécrit par Michael Furnon sous le titre « On demande pas la lune » pour les besoins du single annuel des Enfoirés. Juin 1970. 4 juin, France. Réforme instituant l'autorité parentale, partagée également entre le père et la mère, en remplacement de l'autorité paternelle. Indépendance des Tonga vis-à-vis du Royaume-Uni. 9 juin, le secrétaire général de l'ONU lance un appel pour la sauvegarde du temple et du sanctuaire d'Angkor, où se déroulent des combats. 19 juin, début du ministère conservateur d'Edward Heath, Premier ministre du Royaume-Uni, fin en 1974. Victoire des conservateurs aux législatives, le parti conservateur au pouvoir passe sous la direction d'Edward Heath. Celui-ci entreprend une politique d'inspiration néolibérale, réduction des impôts directs, dont la tranche maximale passe de 90 à 75%, libération du crédit pour relancer la consommation, diminution des dépenses de l'État, arrêt des subventions aux industries en difficulté. Toujours la même année, départ de la 38e édition des 24 heures du Mans. Jean-Paul Sartre est arrêté pour avoir distribué la cause du peuple dans la rue.
C'est la cause du peuple. Pour la liberté d'opinion en France, demandez la cause du peuple. Journal régulièrement saisi pour des opinions.
Demandez la cause du peuple.
Demandez la cause du peuple contre les saisies arbitraires.
Demandez la cause du peuple.
Nous sommes arrêtés parce que nous avons raison. La 17e chambre correctionnelle a refusé de l'interdire, qui n'a rien de scandaleux pour le gouvernement, puisqu'il ne lit même pas avant d'interdire. Soi-disant pour reconstituer une ligue que nous n'avons jamais constituée, dont nous ne faisons pas partie.
Alain Jesmard, arrêté, est-ce que vous considérez comme le nouveau leader de la gauche prolétarienne?
Je ne fais pas partie de la gauche prolétarienne, je n'en ai jamais fait partie. J'ai pris la direction de la cause du peuple parce que je voulais exprimer ma solidarité avec tous ceux qu'on a mis en prison. Au nom de délit d'opinion.
Quelle signification donnez-vous à votre arrestation aujourd'hui?
Eh bien, je ne peux pas vous le dire actuellement. Je vous dirai plus tard ce qui s'en suivra.
Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps quand je te vois. Mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. Oh, oh, oh. L'amour qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sonnaient de la poussière. Toi tu es mon soleil.
Laisse-moi t'aimer est une chanson du chanteur israélien Mike Brandt, sortie en 1970 et parue sur son premier album Mike Brandt. Elle est écrite et composée par Jean Renard. Voilà, cette émission est maintenant terminée. À bientôt pour de nouvelles aventures à travers l'histoire de la France contemporaine.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.